Vous écoutez RFI, les 8h à Paris, 2h à Washington et 7h en temps universel.
Andréane Mélard.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, cet entretien exclusif de RFI avec le fils de Muammar Kadhafi.
Saïf al-Islam Kadhafi livre sa version dans l'affaire du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy. L'ancien président français est d'ailleurs jugé en ce moment dans cette affaire. L'Amérique en premier, Donald Trump investi président, égrène ses priorités pour son mandat avec des décrets et annonces en cascade sur l'immigration, le climat ou les taxes douanière ou encore ses grâces pour les assaillants du Capitole le 6 janvier 2021. Les proches de ces condamnés attendent d'ores et déjà leur libération. Au Proche-Orient, près de 48 heures de trêve entre Israël et le Hamas. 900 camions d'aide humanitaire ont pu entrer hier à Gaza, selon l'ONU. Et puis les stars de la NBA débarquent à Paris. Retour au bercail pour Victor Wembanyama avec les Spurs pour deux confrontations délocalisées.
Le fils de Muammar Kadhafi sort de son silence et c'est une exclusivité RFI.
Saïf al-Islam Kadhafi livre sa version de l'affaire du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. L'ancien président français est d'ailleurs jugé en ce moment à Paris dans cette affaire. Dans un échange écrit avec RFI, il s'exprime sur le sujet pour la première fois depuis 2011. Ouda Ibrahim, bonjour.
Bonjour.
Saïf al-Islam affirme aussi, Ouda, que le clan Sarkozy l'a approché à 3 reprises pour qu'il modifie sa déposition auprès des juges français dans cette affaire.
Et la première demande a été formulée en 2021 par l'intermédiaire de Souhal Badri, consultante et communicante à Paris. Selon Saïf al-Islam, l'offre qui lui a été faite était de nier tout ce qui se dit d'un soutien libyen de Sarkozy, en échange de quoi les procédures qui les visent devant la CPI auraient été arrêtées.
Un an plus tard, fin 2022, affirme Saïf al-Islam, un nouvel émissaire de Nicolas Sarkozy approche sa famille.
En s'adressant cette fois-ci à Hannibal Kadhafi, son jeune frère emprisonné depuis 2015 au Liban, l'intermédiaire serait, selon lui, Noël Dubis, qui est par ailleurs cité dans ce dossier. Il se serait rendu à Beyrouth et aurait exercé des pressions sur Hannibal, lui assurant sa libération si Saïf al-Islam changeait son témoignage en faveur de Sarkozy. Saïf al-Islam soutient qu'une troisième tentative à une date ultérieure non précisé a été effectué par l'intermédiaire d'un Français d'origine arabe dont il n'a pas voulu révéler l'identité.
Et dans cet échange exclusif avec RFI, Saïf al-Islam revient aussi sur sa version de cette affaire. Il donne un montant 5 millions de dollars en espèces.
Oui, 5 millions de dollars en espèces qui, selon Saïf al-Islam, ont été transmis au clan Sarkozy. Le fils du guide libyen dit avoir lui-même supervisé la transmission de cette somme. La moitié de ce montant, soit 2,5 millions de dollars, était selon lui dédié au financement de la campagne électorale de l'élection de 2007. En contrepartie, Nicolas Sarkozy devait conclure des accords et réaliser des projets en faveur de la Libye. L'autre moitié, également en liquide, aurait été remise au clan Sarkozy pour qu'il mette un terme aux poursuites concernant l'attentat contre les DC-10 du TA.
Et pour rappel, le 19 septembre 1989, cet attentat a fait 170 morts. Abdallah Senoussi, beau-frère de Muammar Kadhafi, a été jugé coupable par contumace en 1999. Ouda, vous avez joint l'avocat de Nicolas Sarkozy et lui nie toutes les affirmations de Saïf al-Islam Kadhafi.
Selon maître Christophe Ingrin, ces informations sont fausses et ne sont étayées par rien. Elles sont, selon lui, fantaisistes et opportunistes. Elles tombent alors que le procès vient de commencer. Le dossier est vide. On est vraiment dans le cadre d'une vengeance objective, conclut-il.
Ouda Ibrahim pour le dossier du 8h. Tous les détails de cet échange exclusif sont à retrouver dès à présent sur le site de RFI.
Et c'est même à la une de notre site RFI.fr. À Washington, Donald Trump promet le début de l'âge d'or de l'Amérique.
Lors de son discours d'investiture à Washington, après avoir prêté serment en jurant de respecter la Constitution.
Thank you. Thank you all. Thank you, Governor. Thank you all very much. Appreciate it.
Donald Trump applaudit par ses soutiens sous la coupole du Capitole, ce même Capitole qui, le 6 janvier 2021, avait été attaqué par des partisans pro-Trump qui contestaient la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Ces assaillants viennent d'être graciés. C'est l'un des premiers décrets signés par Donald Trump, plus de 1500 personnes graciées et qui vont donc être libérées sous peu. Et Guillaume Nodin s'est rendu devant la prison de Washington où leurs proches les attendent.
Freedom, liberté pour les émeutiers du 6 janvier. En attendant leur sortie, ils sont quelques dizaines à chanter dans le froid. Depuis près de 2 ans et demi, ils se réunissent là tous les soirs pour soutenir et parfois pour parler à ceux qui sont emprisonnés, comme Dominic Box, qui affirme n'avoir commis aucune violence et attend de sortir depuis 18 mois.
Nous sommes habillés, nos sacs sont faits et nous sommes prêts à partir. Ça ne fait qu'un jour, mais il se passe tellement de choses positives que je sais que quand je vais sortir, que ce soit ce soir ou demain matin, ce sera la cerise sur le gâteau.
Parmi ceux qui attendent à la sortie depuis le début, il y a Mickey Witthoft. Elle est la mère d'Ashley Babbitt, tuée ce jour-là par un policier, et elle est plus que prête.
Nous avons des gens prêts à les emmener à la maison ou ailleurs, directement où ils veulent aller. Ça peut être chez moi, dans une autre maison, dans un hôtel. Il y a des gens qui ont fourni des fonds, des vêtements, des brosses à dents. Et vous savez, j'ai des sentiments mêlés chaque jour. Mais voir ces gars sortir d'ici, ce n'est pas un sentiment mêlé, c'est juste une victoire pour Ashley.
Pour d'autres, les sentiments mêlés, c'est la joie et un peu de tristesse parce que pendant 903 jours, ils se sont réunis. Et c'est désormais terminé. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
La grâce de Trump pour les assaillants du Capitole est une insulte à la justice. C'est la réaction de Nancy Pelosi, ex-présidente démocrate de la Chambre des représentants.
À la Maison-Blanche, Donald Trump a passé une bonne partie de sa soirée à signer des décrets.
Son bureau encombré de dossiers noirs, des dizaines de dossiers empilés. Sans perdre une minute, il met en place les grands axes de sa politique. La sortie de l'accord de Paris sur le climat, la grâce, on l'a vu, des assaillants du Capitole, l'état d'urgence à la frontière mexicaine pour lutter contre l'immigration illégale. Autant d'annonces qui inquiètent les électeurs démocrates qui s'attendent à passer 4 années éprouvantes. Une poignée d'entre eux a organisé un ultime rassemblement hier en parallèle de l'investiture. Sur place, Vincent Souriau et Julien Boileau.
À peine 200 personnes rassemblées par moins 10 degrés dans un parc loin de la Maison Blanche. Le dernier acte militant des organisations de gauche semble bien dérisoire face à la déferlante MAGA qui occupe tout l'espace public en ce jour d'investiture. À quelques minutes de la prestation de serment de Donald Trump, Jessica Brady, une militante féministe, se prépare à encaisser les coups de la nouvelle administration.
Disgusted, a little nauseous.
C'est au bord de la nausée. C'est vrai que ça a été une élection libre et transparente. On ne peut pas faire grand-chose à part se préparer à ce qui arrive. Au fond de moi, j'espère que ce ne sera pas aussi grave que tout le monde le pense. Mais je n'ai aucune confiance en Donald Trump. Les gens ont peur de ce qui va se passer aujourd'hui. Je pense qu'ils font profil bas en attendant la tempête. Pour moi, le plus inquiétant, c'est cette campagne de déportation massive. J'ai peur qu'ils arrêtent ces gens bien avant de pouvoir les expulser. C'est contraire à l'éthique, anticonstitutionnel. Et dans l'ensemble, tout simplement effroyable.
Les comités de soutien à la cause palestinienne, les ONG de défense des droits LGBT et les rares syndicalistes qui prennent la parole promettent de se battre. Mais ils vont affronter une montagne. À l'inverse de 2016, le camp Trump a l'expérience politique, toutes les clés du pouvoir et l'assise du vote populaire. Vincent Souriau, Julien Boileau, Washington RFI.
Et on a évoqué l'état d'urgence décrété à la frontière mexicaine. Donald Trump met en place une promesse de campagne. Le nouveau président veut lutter contre l'immigration illégale qu'il considère comme une invasion. Avec ce décret sur l'état d'urgence, il supprime aussi le programme CBP One. Il permettait aux migrants de demander un rendez-vous depuis le Mexique pour faire une demande d'asile. De l'autre côté de la frontière, des milliers de personnes se retrouvent perdues, sans option. Reportage dans la ville frontalière de Ciudad Juárez, Gwendolina Duval.
Non, mon fils, nous ne pouvons plus passer. Qu'est-ce qu'on va faire ?
Cette femme vient d'apprendre qu'elle ne pourra plus déposer une demande d'asile aux États-Unis, malgré son rendez-vous programmé cet après-midi.
Je trouve que c'est injuste. Ce matin encore, des personnes sont entrées. Pourquoi, à nous, on ne nous donne pas cette chance ? Pourquoi ?
Comme une centaine d'autres personnes qui attendaient depuis tôt ce matin, Yaledi a eu l'espoir d'être parmi les dernières à bénéficier du programme CBP One.
Je crois que c'est fini, ça. L'application ne fonctionne même plus.
Elle raconte que le programme a cessé quelques instants seulement après le premier discours de Donald Trump. Comme cette Vénézuélienne, des milliers de migrants encore au Mexique sont désormais dans l'inconnu, la plus totale.
J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. 7 mois de ma vie ici, dans ce pays, à perdre de l'argent et de l'énergie.
Dans le centre-ville de Ciudad Juárez, Carly Fernandez vient aussi de recevoir un courriel d'annulation de son rendez-vous prévu en février. Elle essaye de convaincre sa famille de rester un peu en espérant qu'une solution viendra dans les jours à venir.
On a tant lutté pour arriver là. Il faut attendre encore pour voir. Ma sœur veut rentrer. Elle fatigue de tout ce qu'on a enduré pour arriver ici. Pour rien.
Au Mexique, on s'interroge désormais de savoir quand arriveront les expulsés de Donald Trump et combien seront-ils. Gwendolina Duval, Ciudad Juárez, RFI.
Donald Trump qui a visiblement du mal à dormir après cette journée chargée, plus de 2h du matin à Washington, et il a annoncé il y a quelques minutes, il a fait une autre annonce il y a quelques minutes sur son réseau social, à savoir le limogeage de 4 responsables gouvernementaux, et plus de 1000 autres pourraient bientôt connaître le même sort, ceux, dit-il, qui ne sont pas alignés avec notre vision. Des limogeages qui interviennent alors que Marco Rubio, lui, prend la tête de la diplomatie américaine. Le Sénat a validé sa nomination pour succéder à Anthony Blinken.
L'investiture de Donald Trump et justement sa vision du monde. On y revient juste après ce journal avec nos invités et notre correspondant à Bruxelles. Les premières annonces et décrets de Donald Trump concernent aussi la politique étrangère.
Le président confirme qu'il veut imposer des droits de douane à hauteur de 25% sur les produits mexicains et canadiens. D'ailleurs, suite à cette annonce, le peso mexicain a aussitôt perdu plus de 1% de sa valeur. Autre annonce, près de 48 heures après le début de la trêve au Proche-Orient, il annule par décret les sanctions contre des colons israéliens accusés de violence en Cisjordanie occupée.
Une trêve qui ne tiendra peut-être pas, selon Trump.
Il a pourtant participé aux négociations pour qu'elle voie le jour, mais il affirme qu'il n'est pas confiant quant à la durée du cessez-le-feu à Gaza. Les diplomates du Conseil de sécurité de l'ONU se disent, eux, prudemment optimistes et, en plus du respect de la trêve, font d'autres demandes aux deux parties. À New York, Karine Auton.
Première mise en garde hier du patron de l'ONU à Israël pour que la paix ne soit pas compromise, ne pas être tenté de coloniser toute ou des parties de la Cisjordanie, cela constituerait une violation très grave du droit international, a-t-il rappelé. Puis la quasi-totalité des pays invités au débat ont martelé le besoin de concrétiser la solution à deux États. Une conférence sur le sujet doit d'ailleurs se tenir le 25 juin à New York, co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite. Masjed Abdelaziz, l'ambassadeur de la Ligue des pays arabes aux Nations Unies, a rappelé que la Cour internationale de justice a demandé à Israël de mettre fin à sa présence dans les territoires occupés.
Afin de renforcer la durabilité du cessez-le-feu à Gaza et de parvenir à une paix juste et globale, nous devons tous défendre des principes fondamentaux qui ne peuvent être compromis. Les forces d'occupation israéliennes doivent se retirer complètement de la bande de Gaza et en finir avec leur tentative de séparer la bande de Gaza de la Cisjordanie, qui constituent toutes deux une unité politique sous l'autorité du territoire de l'État palestinien indépendant.
Enfin, d'autres pays comme la Grande-Bretagne ont exhorté Israël à ne pas mettre en danger la capacité de l'UNRWA à fonctionner, ce qui fragiliserait encore plus l'aide apportée aux réfugiés palestiniens. Karine Auton, New York, RFI.
Et l'aide humanitaire continue d'arriver à Gaza. L'ONU affirme que 900 camions d'aide ont pu entrer hier dans l'enclave palestinienne.
RFI 8h13 à Paris, moins de 6 mois après les Jeux Olympiques, Paris redevient la capitale mondiale du basket.
À l'occasion des Paris Games, les stars de la NBA ont débarqué hier dans la capitale pour deux matchs délocalisés, une double confrontation. Les Indiana Pacers du Camerounais Pascal Siakam affronteront les San Antonio Spurs de la star montante Victor Wembanyama. Le prodige français a pu retourner dans son club formateur à Nanterre, tout près de Paris, où il s'est entraîné hier avec son équipe. Quelques privilégiés ont pu y assister. Victor Misistrano en fait partie.
Il est arrivé comme chez lui et avant d'entrer sur le parquet, Victor Wembanyama a pris le temps de signer des ballons auprès de la cinquantaine de spectateurs, tous vêtus de son maillot noir, floqué du numéro 1, des jeunes basketteurs conviés à l'initiative de son équipementier. Mariem Diallo, 19 ans, en a un peu perdu son latin.
En fait, j'ai parlé en anglais, il m'a dit carrément vous parlez en anglais, j'ai dit ouais, mais c'était vraiment... Parce qu'il est un star en fait, une star pardon, et je sais pas. Ça fait hyper plaisir de voir... des joueurs ils sont connus. Ouais, ça fait plaisir.
Au programme de l'entraînement des Spurs, tout juste descendu de l'avion, quelques tirs et des étirements bien nécessaires, moins de 12 heures après la fin de leur dernier match perdu à Miami. Ce rythme effréné de la NBA et la fatigue du décalage horaire n'entament en rien l'enthousiasme de Wemby, impatient de jouer devant le public français et heureux de se ressourcer dans le club de son adolescence.
Beaucoup d'émotions évidemment, voir des gens, des visages familiers du club ou même de la ville, etc., des gens qui s'occupent de la salle, ça fait vraiment plaisir. Et ouais, on retrouve quelques sensations qui datent pas trop, mais on retrouve quelques sensations.
Illustration en fin d'entraînement avec ce tir du milieu du terrain. Réussi, un bon présage pour la suite de cette folle semaine parisienne.
Victor Misistrano est le premier des deux matchs entre les Spurs et les Pacers. C'est jeudi après-demain.
Merci Marion Cazanov. RFI 8h15 à Paris. Dans le prochain quart d'heure, on revient sur les premières heures du nouveau mandat de Donald Trump. De retour à la Maison Blanche, l'âge d'or de l'Amérique commence, a-t-il assuré hier face à un parterre de partisans avant d'égrener ses premières politiques. Que nous disent ces politiques de la vision du monde de Donald Trump? On en parle ce matin avec la journaliste américaine Anne Bagaméry et en ligne Corentin Célin, professeur agrégé spécialiste des États-Unis. Bonjour à vous. D'abord, bonjour. On jette un œil sur la presse internationale du jour, Frédéric Couteau. À la une, Trump ou le grand chamboulement?
Oui, un rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres. L'arrivée de Trump au pouvoir est le fruit d'un bouleversement fondamental dans la politique américaine, pointe le Los Angeles Times. Un changement d'ambiance significatif, s'exclame le grand quotidien de la côte ouest. En effet, tout a changé. La droite domine désormais dans les réseaux sociaux. Les grandes entreprises cherchent une occasion de revenir au centre après avoir viré à gauche. Trump a profité d'un phénomène de réaction des hommes contre une culture prétendument féminisée. Joe Biden a permis à Trump de rester au centre de l'attention pendant sa propre présidence. De plus, poursuit le journal, le conservatisme américain a changé de peau. Les règles qui régissaient ce qu'un politicien pouvait ou ne pouvait pas faire ne semblent plus valables. L'électorat lui-même est tout simplement différent aujourd'hui. La coalition de Roosevelt a disparu. La classe ouvrière blanche est désormais conservatrice, de même que les classes latino et noires. Les républicains ont compris comment parler à ces électeurs. Qui plus est, pointe encore le Los Angeles Times, le principe MAGA, retrouver la grandeur de l'Amérique, fait partie d'un phénomène mondial plus vaste. Le populisme et le nationalisme sont en hausse en Europe, en Amérique latine et en Inde.
Résultat, Trump est au pouvoir et a commencé dès hier à signer des dizaines de décrets sur l'immigration, l'énergie ou encore le climat.
Et ce n'est qu'un début, lance le Washington Post. Donald Trump a affiché sa détermination à agir aussi vite que possible pour tenir ses promesses de campagne. Alors parmi ces décrets, la grâce accordée à quasiment tous les émeutiers du Capitole, au mépris de la loi, s'indigne le New York Times. Une grâce massive qui tourne en effet en dérision un système judiciaire qui a travaillé pendant 4 ans pour inculper près de 1600 personnes. Une grâce collective qui envoie un message au pays et au monde, selon lequel la violation de la loi pour soutenir Trump et son mouvement a été récompensée. Une grâce qui proclame haut et fort que la violence est une forme parfaitement légitime d'expression politique et qu'aucun prix ne doit être payé par ceux qui ont cherché à perturber un transfert de pouvoir constitutionnel sacré. Changement de ton pour le Wall Street Journal, quotidien économique conservateur. Le Wall Street Journal qui affirme que le 47e président des États-Unis a délivré hier un message d'optimisme que la plupart des Américains accueilleront favorablement.
A contrario, dans la plupart des journaux européens, c'est la consternation qui domine.
Oui, le cauchemar commence, soupire le Guardian à Londres. Le soir à Bruxelles s'indigne. Le nouvel ordre du monde, on y est. Un objectif, un maître et des vassaux. L'Amérique de Trump s'engagera désormais dans le monde en plaçant ses intérêts nationaux et rien que au-dessus de tout. Oui, le cauchemar, renchérit Libération à Paris. Triste spectacle au Capitole hier où le revenant républicain, au cours de son discours d'investiture, n'a pas hésité à déverser sans retenue ses rancœurs contre son prédécesseur et autres outrances. Un avant-goût des politiques violentes qui s'annoncent. Le temps à Genève est tout aussi inquiet. Avec les tons néo-impérialistes de Trump qui a annoncé hier vouloir reprendre le canal de Panama, avec l'influence sans précédent des oligarques de la Big Tech sur le bureau ovale et tous les conflits d'intérêts qui peuvent en découler. La démocratie américaine est à un point de bascule et nombre de démocrates du monde entier pensent qu'elle ne va pas basculer du bon côté. Trump tout-puissant, souligne le Corriere della Sera à Rome, alors que Biden s'envole sous le soleil californien, qu'Hillary Clinton secoue la tête. On ne voit personne qui puisse contester la compression des droits et les conflits d'intérêts face à la marche triomphale de la nouvelle avancée trumpienne.
Enfin, autre son de cloche pour le Figaro à Paris.
Oui, le Figaro qui insiste sur la force du verbe de Donald Trump, qui surpasse parfois celle de l'action dans l'univers MAGA, autorisant le nouveau président à proclamer que par l'effet de son état d'urgence national à la frontière sud, toutes les entrées illégales s'arrêteront immédiatement. De même, l'Amérique redevient par sa décision une puissance respectée dotée d'une armée sans rivale qui termine les guerres actuelles et s'abstient de participer aux autres. Une nation riche, nageant dans le pétrole, une société de pionniers et d'innovateurs qui iront bientôt sur Mars. On ne peut que lui souhaiter, conclut le Figaro, de réussir. réussir dans ce grand dessein riganien.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale. Retrouver la grandeur de l'Amérique, c'est donc l'objectif affiché par le président américain dans son discours d'investiture, avec des annonces nombreuses dans le désordre, des droits de douane importants imposés au Canada, au Mexique à partir du 1er février, le golfe du Mexique qui va devenir le golfe d'Amérique, pourquoi pas récupérer le canal de Panama. Trump se saisissant d'un concept de destinée manifeste selon lequel l'Amérique aurait un droit naturel à l'expansion territoriale. Voilà le tout avec un ton très menaçant. Anne Bagaméry, qu'est-ce que ça nous dit du mandat à venir de Donald Trump?
Je crois que tout d'abord, il faut croire que Trump veut faire exactement ce qu'il dit. La question, et pour son deuxième mandat, c'est évident qu'il est mieux préparé qu'il ne l'était pour son premier. Reste à voir si les empêchements, et il y en a beaucoup dans le système américain, vont lui permettre d'accomplir tout ce qu'il dit. Pour le moment...
Vous voulez dire les freins ?
Oui, les freins, exactement. Mm-hmm.
Mais quelle vision du monde se cache derrière ces déclarations hier?
La vision du monde de Donald Trump, à mon avis, et il le dit clairement, c'est America first, l'Amérique d'abord. Mais il n'ose pas le dire, mais il le prouve avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est Donald Trump d'abord. Donc, il est très transactionnel. Et ce que l'on peut voir dans ses prononcements, c'est que d'abord, il accomplit une promesse de campagne, de mettre l'Amérique au devant de tout. Mm. Et deuxièmement, ce qu'il ne dit pas, mais ce qu'il prouve avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est que tout ce qu'il fait, c'est pour son bénéfice à lui, c'est dans son intérêt à lui.
Alors, Corentin Célin, vous êtes en ligne avec nous. On le disait, toutes ces annonces hier, avec un ton très menaçant. Finalement, assez peu d'Ukraine qui devait être pourtant l'une de ses priorités. Peu de Chine. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ces sujets-là sont finalement relégués au second plan?
Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, pour l'instant, c'est un peu l'option maximaliste. On attendait de voir les premières décisions de Donald Trump, en particulier pour savoir s'il allait mettre sa volonté de vengeance et de revanche politique au premier plan. Et effectivement, c'est ce qui semble être le cas, puisque un peu à la surprise générale, surtout par rapport à des déclarations qui avaient pu être faites par exemple par son vice-président Vance, il a décidé de gracier la quasi-totalité des émeutiers du 6 janvier 2021, les émeutiers du Capitole. Mmh. Et ça, c'est vraiment une première décision extrêmement forte, puisque ça signifie que, un, il ne reconnaît toujours pas sa défaite de 2020, et que en plus, avec les mots avec lesquels il a accompagné l'annonce de cette grâce, il n'a pas du tout l'intention d'abandonner sa volonté de revanche et de vengeance.
Mais
et
par donc, rapport à cette orientation mondiale.
Alors, oui, mais justement, le problème, c'est que pour l'instant, on a l'impression que c'est plutôt cette volonté de revanche qui prédomine sur la grande politique, sur la politique extérieure. C'est ça le problème. Et par exemple, il y a un autre fait surprenant, mais en sens inverse, c'est qu'il avait promis d'augmenter les tarifs douaniers vis-à-vis du Canada, du Mexique et de la Chine. Et là, rien n'est fait dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui prime, ce n'est pas, et comme vous le rappeliez, il n'y a pas non plus pour l'instant d'orientation nette sur l'Ukraine. Ce qui prime, c'est plutôt la politique intérieure et la revanche par rapport à des adversaires politiques qu'il traite très durement. On l'a dit, hein, les mots étaient extrêmement violents. Et là, j'allais dire que la grande politique est un peu reléguée à l'extérieur, sauf qu'on y retrouve aussi ce maximalisme et ce déchaînement avec, par exemple, la redite sur Panama, c'est-à-dire nous reprendrons le canal de Panama. Mmh. Oui, mais enfin là, c'est quand même quelque chose, c'est une annonce, j'allais dire, que si elle devait être portée à terme, c'est immense. Ouais, enfin, ouais. C'est quelque chose
de voilà. Pas de grande politique, hein, vous le disiez, mais bon, quand même, un décret qui prévoit donc la sortie des accords de Paris sur le climat, des déclarations ces dernières semaines qui, on le voit bien, vont bouleverser l'ordre mondial, bouleverser les alliances historiques américaines. Pierre Benazet, bonjour, vous êtes en ligne avec nous de Bruxelles. Pierre, vous nous dites que les dirigeants européens hier se sont fondus de félicitations, assez convenues pour Donald Trump. Une forme de crainte est palpable quand même du côté des dirigeants européens.
Oui, effectivement. Alors, il y a quelques commentaires positifs, mais assez rares, parce que la seule chef de gouvernement européenne qui était invitée à l'investiture, c'est la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Elle, elle se contente de prédire un renforcement des liens italo-américains, mais elle avait déjà donné des gages de bonne entente, puisqu'elle avait commencé à négocier avec Elon Musk un contrat de plus $1,5 milliard avec SpaceX. Il y a le premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui n'a pas fait le déplacement à Washington, mais lui aussi, il parle de l'âge d'or, c'est l'enthousiasme. Ça va être un nouvel âge qui va permettre aussi aux patriotes de droite d'occuper Bruxelles selon ses propres propos.
Mais ce sont les deux seuls dirigeants européens proches de Donald Trump et de ses idées. Pierre, pour les autres, le ton est en demi-teinte. Hein.
Ah oui, parce que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, insiste en particulier sur la nécessité du partenariat transatlantique, menacé par les propos sur la dépense militaire de l'OTAN. Le chancelier Scholz éprouve le besoin de souligner la force et l'unité de l'Union européenne. La seule annonce concrète, vous en avez parlé, c'est la nouvelle sortie des accords de Paris, une attaque contre les politiques climatiques et le pacte vert de l'UE. Mais la crainte immédiate des Européens, c'est pas le Groenland, parce qu'il en a peu parlé cette nuit, c'est l'instauration des droits de douane. On n'a pas parlé beaucoup de manière très précise des droits de douane sur l'Europe, seulement Mexique et Canada cette nuit, mais le commissaire européen aux affaires économiques avertit que l'Europe est prête à se défendre.
Merci Pierre Benazé en direct avec nous de Bruxelles. Alors on parlait de l'Europe prête à se défendre, c'est ce que disait Pierre Benazé à l'instant. Donald Trump a eu hier un discours au contour très guerrier aussi. Je me battrai pour vous et je gagnerai pour vous, c'est ce qu'il a dit Donald Trump. Qu'est-ce que ça nous dit de ce qui va suivre sur la scène internationale ? D'après vous, Anne Bagaméry.
Quand j'entends les propos de Donald Trump et quand j'entends l'analyse de votre collègue à Bruxelles, ce qui m'arrive à l'esprit, c'est de croire que le meilleur des mondes possible pour n'importe quel interlocuteur international, ce serait d'être oublié. Si on est ciblé par Donald Trump, c'est pas bien. Il a le pouvoir derrière lui de faire ce qu'il veut. Et il faut le reconnaître. Mais pour l'Europe, pour l'Union européenne, on peut toujours se préparer pour le pire. Mais pour le moment, je crois que Donald Trump voit autre part. Et de la force de l'Union européenne et surtout de la Commission européenne, c'est pas à négliger.
Quand vous dites il voit autre part, ça veut dire qu'il voit d'autres liens, d'autres alliances possibles ailleurs, c'est ça?
Qu'il a d'autres intérêts. Il a mentionné la Chine avec les tarifs. Il a mentionné le Mexique et le Canada avec ses tarifs aussi. Il a mentionné l'expansion territoriale. Non seulement le Canada-Panama, mais aussi Greenland. Il ne faut pas oublier qu'il a l'intention d'acheter Greenland. Ce n'est pas à vendre, mais
le
tant
Greenland,
pis.
Ouais. Mm.
Donc si vous êtes dans la vision de Donald Trump, ce n'est pas forcément une bonne chose.
Mais
si vous êtes oublié, ça va.
Il y a quand même, Anne Bagaméry, une volonté, on pourrait le dire, un peu isolationniste, puisque hier, on l'a dit, donc l'un de ses premiers décrets, c'était donc la sortie des accords de Paris sur le climat. Donald Trump, climato-sceptique assumé, on le sait, c'était attendu, c'est d'ailleurs la deuxième fois, c'était déjà le cas pendant son premier mandat. Il a aussi prévu le retrait de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a quand même, voilà, les États-Unis s'isolent.
Il n'est pas très coopératif, Donald Trump. Il préfère l'homme seul face à face à son interlocuteur. Et c'est pour cela qu'il n'aime pas se traiter avec des groupes comme la Commission européenne ou l'Union européenne. Il préfère en face à face avec un autre président comme Giorgia Meloni. Isoler et conquérir, c'est un peu son truc. C'est vrai que ce sera une Amérique plus isolée. Et dans l'esprit de Donald Trump et de MAGA, c'est une Amérique plus forte. Il voit dans la coopération et les alliances, il voit une faiblesse au lieu d'une force.
Eh bien, merci beaucoup, Anne Bagaméry. C'est déjà la fin de cet entretien. Merci aussi à Corentin Célin, professeur agrégé et spécialiste des États-Unis en ligne avec nous. Merci également à Pierre Benazé, les États-Unis, l'investiture de Donald Trump, les premières orientations de cette politique à venir du président américain. C'est à retrouver sur notre site RFI.fr et dans nos différentes éditions.
My French Film Festival, le premier festival de cinéma francophone entièrement en ligne, revient du 17 janvier au 17 février. Retrouvez le meilleur du jeune cinéma francophone à travers une sélection de 20 films sous-titrés en 8 langues, disponibles dans le monde entier et gratuits dans de nombreux pays. Rendez-vous sur myfrenchfilmfestival.com pour découvrir les films et de nombreux contenus exclusifs. My French Film Festival, du 17 janvier au 17 février, en partenariat avec France Média Monde.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
entreprendre en Afrique pour les jeunes diplômés avec les conseils du coach Didier Akwété.
Demain,
calculer le coût d'un crédit ou comment utiliser facilement les mathématiques au quotidien.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.